Mon matin, ça va bien ?
Oui !
Je suis tellement heureux de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu, dimanche après dimanche, et ce dimanche, de vous apporter la parole que Dieu a mise sur mon cœur. C'est tellement une belle continuité entre les chants que Sébastien et l'équipe ont apportés et le message que je vais vous apporter ce matin. Ils ne le savaient pas en préparant les chants cette semaine. C'est une continuité, vous allez voir comment on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Vous allez voir comment Dieu, le Saint-Esprit converge vers quelque chose qu'il aimerait nous dire à chacun et chacune d'entre nous ce matin. Vous êtes prêts ? Attache ta ceinture, attache ta tuque, on va découvrir, on va rentrer ensemble dans la parole de Dieu. Dieu a quelque chose pour toi, personnellement ce matin. Amen. C'est pas grave, je vais y aller quand même là, d'accord. Il y a quelque temps en arrière, en famille, nous sommes allés visiter le parc national d'Oka. Oka, le parc national d'Oka, vous êtes avec moi ? Ce sont ceux qui ont déjà visité le parc national d'Oka. Ok, quelques-uns. Visitez le Québec, je vous encourage chacun d'entre vous à visiter votre pays. C'est magnifique, un très beau parc près de la rivière des Outaouais. Et c'est vraiment très beau. Et lorsqu'on a fini notre journée au parc, on a décidé de rentrer sur la rive sud et de prendre le traversier Oka-Hudson. Quels sont ceux qui ont déjà pris le traversier Oka-Hudson ? Quelques-uns, encore un peu moins qu'avant, d'accord ? Visitez le Québec, je vous le redis, c'est magnifique. On peut mettre notre auto, 6, 8 autos sur le traversier, boum, on rentre dessus, il faut avoir la foi qui va flotter, tout ça. Mais on met notre auto sur le traversier et on traverse direction de Oka, direction Hudson, on croise l'autre, si possible, pas au même endroit, on croise l'autre. Et ça fait des navettes comme ça, très sympathique, vraiment, c'est très beau. La région est vraiment très belle, les forêts sont belles à toutes les saisons, c'est vraiment très beau. Et on flotte sur l'eau, mais j'étais fasciné de voir que lorsque l'automne se passe et qu'on arrive dans la période de l'hiver, l'eau devient dure. Tu vois ce que je veux dire ? L'eau devient dure et sur ce même endroit où on passe sur l'eau, l'hiver, il y a un pont de glace, vous le connaissez, vous savez, ça ne vous impressionne pas, je le sais, moi je suis fasciné quand même. Donc ça m'a fasciné qu'on est capable de passer avec nos autos à ce même endroit. J'aimerais vous dire à chacune, chacune d'entre nous ce matin, qu'au fur et à mesure que les années passent dans nos vies, on traverse toutes sortes de choses dans nos vies. On traverse toutes sortes de saisons. On traverse toutes sortes de saisons, mais ce ne sont pas toujours les mêmes circonstances. Ce ne sont pas toujours les mêmes conditions. On traverse pourtant. On traverse au même endroit. Je vais d'Oka jusqu'à Hudson. Mais une fois, je flotte, puis quelques mois après, je roule sur de la glace, c'est le même endroit. Parfois, on traverse dans nos vies des choses, des défis, des difficultés. Certains diront, j'ai traversé la maladie. D'autres diront, j'ai traversé la perte d'un emploi. D'autres encore diront, j'ai traversé une séparation, un divorce. Aïe, aïe, quelle saison, c'était toute une traversée. D'autres diront encore, j'ai traversé une dépression. Toute une traversée, celle-là aussi. Peut-être d'autres diront, j'ai traversé un deuil, moi, dans une saison de ma vie. Peut-être que tu la traverses en ce moment. Un deuil, waouh, comment on traverse ça ? Toute une traversée aussi. D'autres diront, c'est la trahison que j'ai traversée. Des gens qui m'ont déçu, qui m'ont trahi, des amis que je pensais pouvoir compter sur eux m'ont planté dans le dos. J'ai traversé ça, ça fait mal cette traversée-là. Elle est douloureuse. Et au milieu de ces traversées, parfois, on peut être envahi par un flot d'émotions. En général, il y a toutes sortes d'émotions qui nous traverse l'esprit, qui nous traverse le corps dans ces moments de traversée. Peut-être parfois c'est la tristesse. Tristesse au milieu de ce que je suis en train de traverser. Ça m'attriste tellement, je ne pensais pas. Je ne pensais pas traverser ça comme ça. Peut-être c'est un flot d'incompréhension, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi je passe par là, je ne comprends pas pourquoi cet ami m'a trahi, je ne comprends pas pourquoi. Ou encore peut-être un flot de colère. La colère, c'est pas normal ce que je vis. Colère contre quelqu'un, peut-être, qui nous a fait du mal, qui t'a fait du mal. Ou même parfois colère contre Dieu. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi tu me laisses passer par des moments comme ça? C'est vrai. Donne envie. On a tous dû faire face, un jour ou l'autre, à un moment donné ou un autre, à traverser un jour ou l'autre des temps d'épreuve, des temps de tempête, des moments où qu'on a souvent pas vu venir. Souvent, on ne comprend pas vraiment le sens de ces moments-là quand on est en train de les traverser ou quand ils nous frappent sur le coin de la figure. On ne comprend pas le sens. Pourquoi ça allait si bien avant? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça me tombe dessus? Quel sens? J'aimerais qu'on tente de saisir ce matin ensemble qu'au milieu de tout ça, Dieu tient les choses entre ses mains. Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas débarqué de son trône. Il n'est pas tombé à terre. Alors que tu traverses une épreuve, alors que tu traverses une tempête, Dieu n'a pas changé. Il sait ce qu'il fait avec nous. Si nous, on ne voit pas où il s'en va à travers ce que je traverse, pourquoi Dieu permet ça? Où est-ce qu'il m'emmène? Si nous, on ne le voit pas à l'autre bout, lui sait ce qu'il fait avec nous. Il est Dieu, il sait ce qu'il fait avec nous. Alors vous me direz, ça me paraît évident, c'est Dieu. Mais lorsqu'on est au milieu du feu de l'épreuve, lorsque tu traverses ta tempête, ce sont des questions qu'on se pose avec un grand sérieux. Lorsqu'on est en train de passer par un moment difficile, on se les pose ces questions. Seigneur, pourquoi tu permets? Pourquoi alors que ça allait si bien? Pourquoi tout à coup, blam, je me suis pris les pieds? Pourquoi ça fait si mal? Et que tu laisses faire. Pourquoi? Les disciples ont aussi traversé toutes sortes de choses à travers leur cheminement. Ils ont traversé toutes sortes de choses qu'on peut lire dans les évangiles et j'aimerais qu'on lise un de ces épisodes ce matin. Je vous embarque avec moi, regarde avec moi. Luc chapitre 8 verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons, notez bien ceci, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, passons de l'autre côté de la rive. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Vous êtes avec moi? Vous le visualisez? Vous la voyez la barque? Vous voyez le lac, le Galilée? Vous voyez la barque? Jésus s'endort, d'accord? Jésus avait besoin de piquer un petit roupillon, une petite sieste. Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Vous êtes avec moi? On le connaît tellement bien ce passage-là, on l'a déjà tellement lu. Imaginez-vous quelques instants, un tourbillon. Les vents dans cette partie d'Israël arrivent très rapidement. Ils dévalent les collines qui bordent le tour de la mer de Galilée. Ils dévalent les collines en un instant. Elle peut, tout à coup, ça peut être le calme plat sur le lac. Tout à coup, boum, la tempête peut te pogner, tu la vois pas venir en quelques minutes, les vents se mettent à souffler tellement fort, imaginez-vous, l'eau rentrait dans la barque, tellement les vagues étaient grandes, l'eau rentrait dans la barque, le tourbillon fondit, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril, et ils s'approchaient, et réveillèrent Jésus en disant, maître, maître, nous périssons! Ça va? Je fais beaucoup d'efforts pour mettre dans l'ambiance. Vous remarquez un peu là, hein, pour vous embarquer avec moi là, pour faire vivant un peu le texte. Et ils sont en train de le réveiller. On est en train de mourir. On est en train de périr. On ne sait même pas nager. Comment on va s'en sortir? S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, mais où est votre foi? Et saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Et ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Waouh! Quelle aventure! quelle histoire incroyable! On connaît tellement bien ce texte, on le connaît bien. On a entendu ce texte de nombreuses fois, on l'a lu, on a entendu toutes sortes de messages, il y a tellement de choses à dire, mais j'aimerais l'aborder ce matin sous un angle particulier. Je ne parlerai pas de la barque dans la tempête, de Jésus qui dort là au milieu, de la terreur des disciples qui pensent qu'ils vont mourir, et puis de Jésus qui leur dit « Où est passée votre foi ?» etc. Et j'aimerais vous proposer comme premier point ce matin celui-ci. La foi, écoutez bien ceci, la foi a parfois, pour ne pas dire souvent, a parfois besoin d'une tempête pour être révélée. La foi, je vais le répéter parce que je vais être sûr que ça rentre. La foi a parfois besoin d'une tempête pour être révélée. Saint Matthieu, j'aurais voulu que tu nous prêches un message qui nous fait du bien, tu vois, un message qui nous flatte dans le sens du poil, c'est un bon petit message. Savez-vous quoi ? Je prêche des messages qui nous font du bien, je vais prêcher des messages qui nous font du bien, mais nous voulons prêcher toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. On ne veut pas cacher des textes, on ne veut pas passer à côté de certains textes, on veut prêcher toute la parole de Dieu. Et les tempêtes sont des saisons dans nos vies qui arrivent et qui arriveront encore. Comment se comporter dans ces moments-là? Il faut voir ces choses-là en face, il faut pouvoir s'y préparer, parce que quand elles nous arrivent sur le coin de la figure, on ne les a pas vues venir en général, et si on n'est pas préparé pour ce genre de moments-là, notre foi souvent, le peu de petite foi qu'on peut avoir souvent la si on n'est pas préparé dans ces moments-là, on ne fait pas long feu. Alors, écoutez bien, je vais le redire encore une fois, la foi a parfois besoin d'une tempête, d'une bonne tempête, pour être révélée. Eh oui, absolument. Tout comme pour guérir quelqu'un, ça prend une maladie. La foi a parfois besoin d'une tempête pour être révélée. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Toute une tempête, mes amis, toute une tempête, ils étaient en péril, leur vie était en danger. Waouh ! Toute une tempête. Jusqu'à cet épisode-là, lorsqu'on lit ce texte dans les évangiles, ce texte qu'on vient de lire, jusque-là, on voit que les disciples suivaient Jésus et ils le voyaient faire toutes sortes de miracles, raconter des paraboles, expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Ils étaient dans un beau petit cocon. Ils étaient dans un beau petit cocon, bien réfugiés derrière Jésus. Tout allait bien, réfugiés derrière leur maître. C'est lui qui fait, c'est lui qui s'en occupe. Nous, on se réfugie derrière, nous, on se cache là et on reste dans notre beau petit cocon. Qu'est-ce que c'est rassurant de voir Jésus qui tient les choses bien en main. De l'entendre raconter des paraboles, la parabole du semeur, de rassurer le centenier sur la guérison de son serviteur, de voir Jésus guérir des boiteux, des lépreux, de guérir cette femme qui perdait du sang, de se faire dire à eux, les disciples, que Jésus serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que c'est rassurant de voir Jésus nourrir des foules miraculeusement alors qu'il n'y avait pas de nourriture. Qu'est-ce que c'est rassurant? Beau petit cocon. Et en même temps, juste quelque temps avant cela, Jésus leur avait fait un discours sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne vous endormez pas sur vos acquis. Tu es dans ton beau petit cocon, ça va bien, mais tu t'endors dans ton cocon. Tu te relâches, il y a plus pour toi. Il y a autre chose, il y a un autre chemin pour toi. Tu es en train de glisser sur une pente. En étant dans ton beau petit cocon, puis en te contentant juste de ça. Il y a plus pour toi. Dieu aimerait t'utiliser plus. Où est ton appel? Rappelle-toi de qu'est-ce que Dieu t'a dit. D'où il t'a tiré. C'est pas pour que tu restes juste dans ton petit cocon. Bien confortable. Dieu a plus pour toi. Et c'est ça que Jésus était en train de leur dire. Jésus, c'est ça qui disait à ses disciples. Regardez, regardez ce qu'il va leur dire. On est dans Matthieu 7, 26. Quiconque entend de moi ces paroles, elle ne les met pas en pratique. Ceux qui restent dans leur bon petit cocon. T'entends juste des paroles, ça fait du bien. Le pasteur a bien prêché ce matin, il était en feu. Waouh! Qu'est-ce qui nous a fait rire? Qu'est-ce qui nous a fait pleurer? Ah, waouh, c'était super! C'est juste des paroles, tant que tu ne les mets pas en pratique dans ta propre vie. C'est ça que Jésus était en train de dire à ses disciples. Juste avant cet épisode-là, c'est ça que Jésus dit à ses disciples. Quiconque entend de moi ces paroles, mais ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, la tempête est venue, la traversée au milieu de la tempête est venue, et se sont abattus sur cette maison, elle est tombée, et sa ruine, sa chute a été grande. Quand on se contente de notre petit cocon et qu'on ne se prépare pas, qu'on ne se cache pas en Jésus, il y a un risque. Il y a un risque lorsque la pluie va tomber, lorsqu'une saison de tempête arrive, il y a un risque que tu ne tiennes pas. Il y a un risque que ce frêle fondement sur lequel tu t'appuies, si tu n'es pas plus près de Dieu, si tu négliges le sérieux d'être tout près de Dieu, de travailler dans ta vie à être près de Dieu, alors cette maison est tombée et sa chute a été grande. Waouh! Il y a un grand sérieux derrière tout ça. Il y a un immense sérieux avec lequel Jésus reprend ses disciples. Et sa voix résonne encore pour chacun, chacune d'entre nous aujourd'hui. Une voix d'amour, mes amis. Une voix d'amour. Hey, ne restez pas dans votre bulle, bien confortable, à regarder les autres vivre leur foi. Il y a plus pour toi. Ça sonne comme un avertissement ce matin. Avec un grand sérieux. Mais c'est un avertissement d'amour. C'est un avertissement d'amour. Cet amour de Dieu qui avertit ses disciples et ses enfants parce que son cœur désire tellement leur faire éviter la chute. Comme un bon père ou une bonne mère qui désire tellement éviter la chute à son jeune enfant. C'est un désir d'amour, c'est une motivation d'amour. Quel bon père laisserait son enfant aller n'importe où, n'importe comment, sans se soucier de lui, sans essayer d'aller le rechercher, sans essayer d'aller tendre sa main vers lui. Un désir d'amour. Et en même temps, la chute nous apprend plein de choses. Les erreurs nous apprennent toutes sortes de choses. Les pièges à éviter. À ne plus se prendre les pieds dans le même tapis. Encore une fois. La chute nous apprend à connaître, à nous connaître, et peut-être même à nous méfier un peu de nous-mêmes. Faites pas semblant, je sais que vous avez compris. Parfois, nous méfier un peu de nous-mêmes. Écouter un peu plus Dieu que m'écouter moi-même. Me confier plus en Dieu que de me confier à moi-même. Donner un peu plus souvent le volant de ma vie à Dieu, plutôt que de me conduire par moi-même. La semaine, lorsqu'on quitte le dimanche matin, qu'on a entendu un bon message, quelle responsabilité chacun d'entre nous avons de chercher à mettre en pratique ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Lorsque tu lis la parole la semaine chez toi à la maison, ta responsabilité individuelle de chercher à mettre en pratique, pas juste fermer ta Bible et puis partir comme si tu n'avais rien lu, de chercher à mettre en pratique, de méditer cette parole, de demander à Dieu, Seigneur, comment je vais pouvoir le mettre en pratique dans ma vie, comment je pourrais bénir quelqu'un en mettant en pratique cette parole. Là, aujourd'hui, je m'en vais au travail, je m'en vais de mon contexte. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Avec un grand sérieux, avec un grand sérieux, Jésus parle à ses disciples. Jésus a décidé que c'était le moment de mettre à l'épreuve ses disciples. Parce qu'il les aime. Parce qu'il ne pouvait pas juste se contenter de les laisser dans l'état dans lequel ils étaient. Il pouvait juste, par amour, il ne pouvait pas les laisser dans leur petit cocon. Leur maison bâtie sur du sable, il y avait quelque chose de plus à vivre pour ses disciples. Alors par amour, il va les mettre à l'épreuve. Il va les emmener dans une leçon pratique d'amour pour les emmener plus loin. Sans pratique, sans tempête parfois, pas de réelle mise à l'épreuve de notre foi. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on était en Suisse, il y a dans la ville de Lucerne, en Suisse, c'est en Suisse alémanique, c'est la Suisse où on parle le suisse allemand, c'est un dialecte d'allemand. C'est certainement cette langue-là qu'on parlera au ciel, parce qu'on ne comprend rien. C'est comme le parler en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit, alors on ne comprend pas ce que les gens disent, c'est un dialecte un peu particulier en Suisse allemande. Et donc on aime beaucoup, mais je ris là-dessus, ma femme vient de, ses parents viennent de ce coin-là, on aime beaucoup. Et dans cette ville de Lucerne, qui est une magnifique ville au bord d'un beau lac, il y a un musée qui s'appelle le musée des transports. Et quand les filles étaient petites, on est allé une fois dans ce musée des transports, un grand musée, il y a tous les transports possibles, tu vas dans une section, c'est des trains, des locomotives à vapeur, des vieilles, tu peux rentrer à l'intérieur et tout, tu sors de train, tu rentres dans un autre, c'est des avions, il y a un Boeing immense comme ça, tu peux rentrer à l'intérieur, te mettre dans le cockpit du pilote, c'est génial pour les enfants, c'est super pour les grands aussi, les papas surtout, et donc il y a une section auto, une section voiture, et là c'est un immense hangar, tu rentres à l'intérieur, il est tellement haut et il y a un mur au complet immense, tu vois presque pas la fin, un mur au complet immense, c'est comme des racks comme ça, il y a des autos qui sont stationnées en hauteur, comme ça, sur ces racks, un peu, sur tout le mur, tu es là, tu regardes comme ça, tu dis, waouh, c'est immense. Il y a toutes sortes d'autos, des vieilles voitures, des premières voitures qui ont été créées, etc., des marques différentes et tout ça. Et toi, tu te retrouves devant, il y a un grand panneau comme ça, digital interactif, et chaque auto est répertoriée sur ce tableau, comme ça. Tu peux cliquer sur un de ces boutons qui correspond à des autos, puis là, tu as un immense ascenseur qui se déplace, qui monte. Hop, il t'amène la voiture juste devant toi, puis là tu as une voix qui dit, elle te raconte l'histoire de l'auto, elle te raconte d'où elle vient, etc. Tu dis, waouh, c'est fou, immense. Et là, dans un coin de ce hangar, il y a la section crash test. C'est une section où ils font des tests d'auto qui font un accident. Alors tout est prévu pour, et tu peux tester. Là, on s'approche de ça, puis là tu es toujours content, on aime bien ça. Moi j'ai que des femmes et à la maison, donc moi je retombe en enfance dans ces moments-là, je dis wow, super et tout. Et là on se met dans la file d'attente, on peut faire le test, on s'assied à deux dans l'auto, tu dois mettre, hop, il te prête un casque et tout ça. Puis là tu vois de loin, je vois un panneau, c'est marqué 10 km/h, à 10 km/h l'auto rentre dans le mur, tu vas voir ce que ça donne. Puis là moi je ris, 10 km/h, tu rigoles ou quoi, 10 km/h, rien du tout. Puis là je suis dans la file, tu sais, tu te rapproches. Au fur et à mesure que tu te rapproches, tu sais, c'est comme à la ronde. Au fur et à mesure que t'es devant le Goliath, là, côté dans la file, au début, tu dis « Oh, t'es tout motivé, super, ça va être génial et tout. » Puis au fur et à mesure que tu te rapproches, tu commences à avoir des petites sueurs froides. « Oh, c'est quand même haut, hein ?» Et puis là, tu vois, au fur et à mesure que tu te rapproches, tu viens vraiment tout près, tu vois des gens tout blancs qui se retournent, qui partent en arrière. Ils sont comme ça. « Oh non, je ne vais pas le faire. » Tu sais, et finalement, tu vas quand même. Et moi, je suis dans la file, je commence à voir. Puis là, je vois les gens qui mettent leur casque, ils s'asseyent dedans et tout ça, ils mettent leur ceinture et tout, et là je vois 10 km/h, je vois les gens, ils sont dedans, puis moi je rigole au début, tout à coup je vois BAM! Ouh, quand même, hein! 10 km/h, ça tape quand même. Hein, ça tape comme... Là, je me rapproche, plus je me rapproche, je les vois sortir, ils sont comme quand même. Et là, je suis, oh, quand même, 10 km. Là, on arrive. Puis moi, je suis un peu comme ça, mais je fais un peu, tu sais, je suis avec mes filles et tout ça. Je dis, ah, ça va aller les filles, tu vas voir, ça va être bien et tout. Mais moi, au fond de moi, je suis, ouh, quand même. Et puis, on s'assied dans l'auto, on met le casque et tout. Là, c'est la tension, la voiture recule. On avance, bam. Mais là, je suis là, bam, la tête dans le volant. La tête dans le volant, bang, comme ça, 10 km, je sors. Ouh, ah, quand même. Non, quand même. Quand même. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour la prévention. Juste 10 km/h, c'est pas vite, mais bam, tu t'en prends une. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Avec Dieu, c'est parfois comme ça aussi. Dieu nous met au test. Dieu nous met au crash test, parfois. Dieu s'y prend comme ça aussi avec nos vies, parfois. Il place devant nous des tests sur notre route. Des tests pour nous faire aller plus loin. Pour nous faire aller plus loin. C'est lorsque le vent souffle fortement qu'on voit si un arbre est solidement enraciné. Tu ne le vois pas tant qu'il n'y a pas eu la tempête qui a passé. Si tu es déjà passé dans une forêt après une grosse tempête, moi j'ai déjà vu ça en Suisse, des gros ouragans qui sont passés, tu passes dans la forêt après, c'est très intéressant. Tous les arbres qui sont à terre, check les racines. Check les racines. Tous les arbres qui sont à terre, c'est ceux qui n'avaient pas assez de racines profondes. Mais quand ils sont tous debout, tu ne le vois pas. Quand tu te promènes dans une forêt, pas de tempête, ils sont tous debout la même, pareil. Tu ne sais pas ce qu'il y a dessous. Tu ne les vois pas les racines. C'est quand la tempête se met à souffler que ça révèle quelles sont véritablement tes racines. Lors d'un crash test, c'est là qu'on voit les failles d'une auto, d'une voiture, et qu'on peut l'améliorer alors. Pour plus de sécurité. C'est comme ça qu'on peut l'améliorer. C'est lorsque je presse une orange que je peux en sortir le bon jus. Si je la laisse juste sur le comptoir, elle va pourrir sans que j'aie pu utiliser le bon jus. C'est lorsqu'elle est pressée qu'on peut en tirer le bon jus. Sans tempête, pas de réelle mise à l'épreuve de notre foi, mes amis. C'était mon premier point. Deuxièmement, ce matin, je nous emmène plus loin. Deuxièmement, ce matin, elle est bien le premier point en tête. Deuxièmement, ce matin, le plan de Dieu est de nous amener à bon port. Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Je vous ai dit, rappelez-vous cette parole, ça paraît si bête comme ça, quand on lit le texte, on y passe dessus sans faire attention. Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Lorsqu'on est au milieu de la tempête, lorsqu'on vit la tempête et les épreuves qui tourbillonnent autour de nous, dans nos cœurs, alentour de nous, dans nos têtes, il ne nous semble pas à la pensée humaine qu'il peut sortir quelque chose de bon de là. Vous êtes d'accord avec moi? Comment est-ce que je pourrais être un témoignage alors que mon corps est malade? Comment est-ce que je pourrais être un témoin alors que je suis en difficulté financière? Comment m'en sortir alors que je n'ai plus de force, que je suis en burn-out, en dépression, en déprime? Comment m'en sortir? Comment est-ce que je pourrais être un témoignage au milieu de ça? Comment pourrais-je briller alors que mes enfants sont loin du Seigneur? Quand on traverse des tempêtes, on a parfois de la misère à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de bon qui sorte de là. Il y a quelques petites années en arrière, on était dans notre maison en Suisse, et ceux qui ont assisté à mes derniers messages, vous avez vu une photo de ma petite maison, notre petite maison à la campagne, dans un beau verger, tout beau, avec de l'herbe verte et grasse, des biches qui gambadent dans la forêt, etc. Non, je caricature un peu, mais vous avez vu notre maison, on a une jolie maison à la campagne, tout près d'une forêt. Et un jour, on était chez nous à la maison, ce jour-là, il faisait pas beau, c'était comme dans une entre-saison comme ça, où tu sais, ça neige un peu, mais ça pleut aussi, puis il fait humide, il y a du brouillard, puis c'est vraiment le temps, tu regardes par la fenêtre, tu te dis, oh, je vais rester à l'intérieur quand même. Non, aujourd'hui, ça va être bien à l'intérieur. Et on est et je regarde ce jour-là, je regarde par la fenêtre et j'entends des bruits de Je le fais bien ou pas? Oh, quand même, vous me regardez avec des yeux comme ça, là. Je le fais bien, je fais des efforts. Donc, si à chaîne, t'avais remarqué ça? Il y en a qui croyaient que c'était du motocross ou je sais pas quoi, là. Si à chaîne, c'était une si à chaîne, ce que je viens de faire là. Si à chaîne, des bûcherons qui étaient derrière chez nous, à la lisière de la forêt, ils étaient en train de bûcheronner, les gars. Et je voyais les arbres craboum qui tombent. Ils sont toute une gang, ils sont habillés avec des matelas sur eux, là. Ils font des trucs. Moi, j'aime ça, là. Moi qui suis bûcheron dans l'âme et tout ça, là. Moi, j'aime ça, je les regarde aller. Si vous des conseils, venez chez moi à la maison, je vais te montrer un peu comment on fait, et puis j'aime regarder ça, et les gars ils tronçonnent, il y a des gros billots de bois qui tombent à terre, ils font des tas, etc. Je vois le champ qui est juste en arrière de chez moi, là. Ils le labourent en marchant, il y a de la bouette partout, et tout ça, et là je suis là, wow, non je suis quand même bien à l'intérieur, non ça c'est bien, je suis bien chez nous, on est bien là, et c'était juste en arrière de chez nous. Ils étaient pile poil à l'endroit où moi, j'aimais prendre une marche pour aller prier. J'aimais passer par là pour aller prier. Ils étaient exactement à cet endroit-là. Et le lendemain matin, les nuages sont partis, le soleil se lève, il fait beau. Je me lève le matin, je vais aller faire un petit tour, je vais prendre une marche comme à mon habitude. Je pars et je passe là où les bûcherons avaient bûcheronné le jour d'avant. Et c'est un chantier, je marche là-dedans, c'est un chantier de partout. Il y a des tas de bois, il y a des branches qui sont là. Ils ont fait des tas, ils ont tronçonné. L'herbe est à moitié couchée un peu partout. Et là, je passe, je suis en train de marcher, je suis en train de prier, je pense à toutes sortes de choses. Et je passe à cet endroit-là, tout à coup, je vois un champignon. Je vois une morille. Okay, il y a 3 connaisseurs de morilles ici dans la salle. Et je vois une morille. Une morille, c'est un champignon spécial qui pousse à une période spéciale. C'est des champignons très particuliers, c'est des bons champignons. Je ne sais pas ici dans votre culture nord-américaine si les champignons c'est quelque chose de bon à manger ou à mélanger dans la poutine ou je ne sais pas ce genre de choses. Mais chez nous, en Europe, on apprécie de manger... Non, mais je sais qu'ici vous mangez des champignons, je le sais. Les morilles là, tu les coupes là, d'une petite sauce à la crème avec une bonne viande là. Tu fais mijoter tout ça, tu manges ça, c'est vraiment très très bon. Ici au Canada, 1 kilo de morille, $150. Et que moi je vois une morille, je me jette dessus. Je viens riche, ça y est, c'est comme un gars qui a trouvé une pépite d'or. Et une morille, puis là j'en vois une autre, 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 j'en trouve 10, 15, 20 morilles, je les prends, je les récupère, je rentre chez nous à la maison, je les ai mis dans mon moto comme ça, je rentre à la maison chez nous, je dis, on est riche chérie, on est riche. Jusqu'au moment où on les a mis dans la casserole, puis on s'est mis à les manger. Donc c'était très bon, c'était magnifique. Savez-vous quoi? On peut parfois passer sur... dans des moments de tempête, et ne pas voir la richesse des choses qui sont juste à nos pieds. Ces bûcherons n'avaient pas vu du tout ces morilles. Ils avaient bûcheronné toute la journée, ils ne s'étaient pas rendus compte que sous leurs pieds, il y avait un trésor. Ils ne s'étaient pas rendus compte que sous leurs pieds, il y avait quelque chose, certainement que s'ils les avaient vus, ils les auraient ramassés, c'est certain. Ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Waouh! On peut passer à côté de choses que Dieu en réserve pour nous alors qu'on est au milieu de notre tempête, alors qu'on est au milieu d'une épreuve. Si on ne reste pas tout près de lui, si on ne reste pas caché en lui, si on ne reste pas au milieu de l'épreuve accroché à Jésus, si on se laisse glisser sur une pente loin de Dieu, on se met à se révolter contre lui, on se met... Alors, il y a comme un voile qui vient devant nos yeux, on ne se rend plus compte de ces choses-là. Si Dieu permet que tu traverses une tempête, il sait ce qu'il fait avec toi. Et parfois, c'est nécessaire. Dans nos fauteuils spirituels dans lesquels on s'était installé, parfois c'est nécessaire que Dieu vienne. Il dit, viens, on va passer à l'autre bord, viens, je ne vais pas te laisser là. Viens avec moi, je t'aime tellement, je ne peux pas te laisser là où tu es. Viens avec moi, sors de ton fauteuil, Mathieu, sors de ton fauteuil, viens avec moi, je vais t'emmener ailleurs, je veux raviver ta foi, je veux raviver ta vie spirituelle, je ne te laisserai pas là où tu es. Ça va venir. Hallelujah. Dieu est capable de faire sortir d'un champ parfaitement ordinaire, du champ parfaitement ordinaire de ma vie, du champ parfaitement ordinaire de ta vie, des trésors. des trésors spirituels. Il a en réserve dans ton désert un trésor. Au milieu de ta tempête, au milieu de ton épreuve, il a un trésor qui est préparé pour toi. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté des choses qui vont enchanter nos vies, même au milieu de la tempête. Et au milieu de tout ça, alors que les disciples sont en train de prendre une leçon de foi pratique, qui sont sortis de leur fauteuil spirituel, puis qui sont « Wow, toi t'en es où dans ta foi ? Moi je vais dormir un peu. Toi ta foi, tu vas essayer de la mettre à l'épreuve. Moi je me retire un petit coup. Jésus m'a dormi. C'est pas pour rien qu'il va se coucher puis qu'il s'endort dans cette barque. Il les laisse un peu seuls. Il dit « Regarde, sur qui tu comptes quand je ne suis pas là ? Sur qui tu comptes ? C'est qui ton appui ? C'est en qui que tu vas te réfugier ? » Ils ont eu un bon réflexe sur l'île réveillée. C'est ça que Jésus voulait susciter. C'est ça qu'il voulait faire ressortir. Notre nature humaine a tendance, cette fâcheuse tendance, à trier les informations et à ne retenir que ce qu'on veut ou que ce qu'on voit. Mais Jésus a dit ceci, « Passons à l'autre bord. » S'il a dit ça, c'est qu'il avait un objectif. C'était de passer à l'autre bord. Pasteur Mathieu, c'est un peu simple ce que tu nous dis là, c'est un peu simpliste. Hein. Non, non, non. Regardez bien. Les disciples avaient oublié que c'était ça qu'il leur avait dit. Si Jésus leur avait dit « passons à l'autre bord », c'est qu'ils n'avaient pas prévu de s'établir au fond du lac avec les poissons, les crustacés, avec une gang de disciples qui ne savaient pas nager. Non. Non, non, non. Son objectif n'était pas le fond du lac. Et si les disciples étaient revenus à ce que Jésus leur avait dit à la base, ils se seraient rendus compte. S'il nous a dit « passons à l'autre bord », on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à paniquer, même s'il dort, restons confiants, il nous amène à l'autre bord. S'il avait prévu qu'on finisse au fond, il nous aurait dit « hé, hé la gang, embarquez dans la barque, là, on va terminer au fond, on a un petit sous-marin là, à faire ensemble ». Il leur a dit « passons à l'autre bord ». Jésus est toujours fidèle à sa parole. Dieu est toujours fidèle à sa parole. S'il dit « passons à l'autre bord », on va y arriver à l'autre bord, même si une tempête fait rage. Et j'aimerais te dire ce matin, alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît, j'aimerais te dire ce matin, là où tu en es dans ta vie, reviens à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Ça remonte peut-être à longtemps. Quel appel est-ce qu'il a mis sur ta vie ? Qu'est-ce qu'il a dit dans ta vie ? Parce que, à travers les aléas de nos vies, à travers les tempêtes qui font rage dans nos vies, on a tendance, comme les disciples, à vite oublier ce que Jésus nous a dit, ce que Dieu a dit dans nos vies. Et puis on se met à regarder les circonstances, les flots qui rentrent dedans, etc. Puis on se met à oublier que Jésus a dit « passons à l'autre bord ». Et alors, s'il nous a dit « passons à l'autre bord », on va y arriver. Qu'est-ce qu'il a dit dans ta vie ? Remonte à ce qu'il t'a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? L'appel qu'il a mis sur ta vie, il ne se repent pas. Il t'a donné quelque chose. Reviens à ce qu'il t'a dit. C'est précieux. C'est plus précieux que l'or. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il aimerait raviver quelque chose dans ta vie ce matin. Il aimerait te rappeler qu'est-ce qu'il a dit dans ta vie ce matin. Au-delà des vents qui soufflent, au-delà de la tempête qui fait rage dans ta vie, il aimerait te rappeler « Je suis Dieu. Si je t'ai dit quelque chose, je l'accomplirai. Fais-moi confiance au milieu de ta tempête. » Ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dira un jour ceci à Timothée, Philippiens 2, 22. Il parle de Timothée et il dit ceci. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Vous savez qu'il est passé par une tempête. Il était mis à l'épreuve. En se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Ah ben là, quand même, c'est parce qu'il a quitté sa situation, il a quitté peut-être son confort, Et peut-être qu'il a quitté un bon salaire, peut-être qu'il a quitté pour se mettre au service de l'Évangile. Et c'est comme ça que tu le remercies, Dieu. C'est avec une mise à l'épreuve, avec une tempête. C'est comme ça que tu le remercies. Ben, merci bien. C'est parce que, regardez, parfois Dieu... Reviens à l'autre, je te remercie. C'est parce que Dieu, parfois, comme un bon père, sait ce qu'il fait avec ses enfants. Comme un enfant avec son père. Un père, une mère, cherche toujours le bien de ses enfants, tout le temps. Jamais ça nous viendrait, ou leur faut être perturbé. Jamais ça nous viendrait à la pensée de leur faire du mal, de leur souhaiter du mal. On leur veut le meilleur des avenirs. On leur souhaite la meilleure des chances. On souhaite le meilleur des parcours pour leur vie. Et pourtant, dans l'éducation qu'on leur donne, parfois on leur dit non. Parfois on les reprend. Parfois on les met en conséquence. Parce que je sais que s'ils continuent sur cette voie-là, c'est une mauvaise voie pour eux, pour leur avenir. Alors je corrige, en bon père que je suis. Dieu n'est pas différent. Dieu est pareil. Dieu est exactement de la même manière avec nous, toujours avec amour. Dans nos vies, tout comme dans celle de Timothée, Dieu prend plaisir à un amour passionné. Quel père se contenterait d'un amour tiède de la part de ses enfants? Un amour blasé. Quelle mère contenterait d'un amour blasé de ses enfants? Ça nous fait mal quand ils le sont. C'est souvent la période difficile de l'adolescence où on voit nos enfants parfois nous manquer de respect, parfois nous montrer du désintérêt. Ça fait mal. Et combien de fois est-ce que moi, dans la pratique, je manifeste un amour habitué avec Dieu? Je m'habitue. Blasé. On est comme habitué. On laisse les choses glisser. Léger envers Dieu parfois. Ce n'est pas intentionnel, mais par habitude parfois on devient léger. Laissez-moi vous dire que ça crée des chrétiens insignifiants. Ça fait mal. Ça crée des chrétiens insipides qui ne ressemblent plus beaucoup à Jésus. Alors, notre bon Père Céleste met en place des traversées de lacs pour nous. Allez, viens, Matthieu. Allez, viens, Matthieu. Passons de l'autre bord. On va traverser ensemble. Je ne te laisserai pas là où t'es. Je ne te laisserai pas là où t'es. Tu as quelque chose à vivre, il y a quelque chose que tu as perdu, que tu dois regagner. Je ne te laisserai pas sur cette rive-là. On va traverser ensemble, je vais te prendre avec moi. Tu ne peux pas rester là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement dans ta mentalité, dans ton cœur. Passons à l'autre bord, je vais t'aider. On va traverser quelque chose ensemble. Oups, ça va te décoiffer un peu, mais ça va te sortir de là où t'es. Ça va te sortir de ton confort. Je ne peux pas te laisser là. Dieu veut nous faire traverser cet état spirituel insatisfaisant pour passer à l'autre bord. Un autre horizon, quelque chose de nouveau, de frais. changer d'attitude, de comportement, changer de cœur, raviver notre flamme. Raviver ta flamme ce matin. Ne reste pas là où tu en es. Laisse Dieu t'emmener à nouveau. Dépose-lui ta vie tout à nouveau ce matin. Si tu as besoin de changer de rive, Dieu va te donner l'occasion de mettre ta foi à l'épreuve, en pratique, pour te transformer. Peut-être que c'est ce par quoi tu passes en ce moment. Et parfois, on en a besoin. On en a parfois besoin. J'aimerais nous dire ce matin, chacun d'entre nous, qu'au milieu des lacs de nos vies, lorsque la tempête se m'a soufflé, n'oublions jamais plus que l'objectif de Dieu n'est pas la tempête. S'il pouvait nous la faire éviter, il nous la ferait éviter en bon père qu'il est. Son objectif n'est pas la tempête. Son objectif, c'est l'autre bord. C'est le changement de mentalité. Son objectif, c'est l'autre bord. Un changement de cœur, des vies entières consacrées pour Dieu tout à nouveau. L'opposé de ce que produit la chair en nous, l'apathie spirituelle, le contentement, l'obésité spirituelle. Quelle horreur! Alors pourquoi est-ce que pour certains la traversée est plus longue que d'autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ne pensez pas que c'est parce qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Jamais. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est un mystère. Pourquoi Moïse a passé 40 ans dans le pays de Madian avant que Dieu se révèle à lui au buisson ardent et lui dise « Va libérer mon peuple de l'esclavage ». Pourquoi Joseph a passé 7 ans dans les geôles de Potiphar? Pourquoi le peuple d'Israël a été déporté pendant 70 ans à Babylone? Pourquoi l'apôtre Paul a tourné pendant 3 ans dans le désert d'Arabie? Pourquoi c'est différent pour un ou pour l'autre? Chacun d'entre nous, on a nos propres traversées à faire, notre propre tempête à faire face. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement possible. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Et une chose est sûre, c'est qu'il a prévu pour chacun d'entre nous d'accoster à l'autre bord. Son plan n'est pas que tu coules, son plan n'est pas le naufrage pour ta vie, jamais. Son plan, à travers ce par quoi tu passes, son plan, c'est d'accoster à l'autre bord avec une transformation, avec un changement de cœur. Reste caché en lui. C'est comme ça que tu vas pouvoir le vivre. C'est comme ça que tu vas pouvoir traverser. Et si nous choisissons de mettre notre foi en action, notre confiance en lui, il nous conduira à bon port avec un horizon nouveau, des perspectives de vie, des pensées nouvelles. Absolument. L'apôtre Pierre dira ceci, 1 Pierre 1,7, l'épreuve de votre foi, lorsque tu passes par une tempête, lorsque tu traverses une épreuve, lorsque tu traverses ces moments-là, que ça brasse à l'intérieur, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ça c'est un trésor, qui cependant est éprouvé par le feu, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh! Waouh! Écoutez bien ceci ce matin en terminant. C'est extraordinaire de voir que le résultat de ces traversées dans nos vies, si on choisit de s'ouvrir à Dieu dans ces moments-là, au milieu de nos tempêtes, si on choisit de s'ouvrir à lui et de le louer malgré tout, le résultat, c'est une louange qui monte vers Dieu. C'est une vie de louange qui monte vers Dieu. Écoutez bien ceci. On peut chanter des chants. On peut ouvrir notre bouche et faire marcher nos cordes vocales. Ça ne démontre pas vraiment, systématiquement, ce qui est vraiment au fond de notre cœur. Toutes sortes de personnes qui chantent dans ce bas monde. Mais lorsque tu traverses une épreuve,
lorsque tu traverses une tempête, dans ces moments-là, si tu choisis de dire à Dieu, non, non, je ne te pointerai pas du doigt, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ça m'est venu sur le coin de la figure, je ne m'y attendais pas. Je ne comprends pas ce que tu fais avec moi. Mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu tiens ma vie entre tes mains. Je sais que ce moment que je suis en train de vivre, il me déboussole. Peut-être même j'ai peur, j'ai de la crainte, j'ai des doutes qui sont là. Mais tu es Dieu, tu restes Dieu. Et je choisis malgré tout de te remettre à ta place dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur. Tu es Dieu et je te le célébrerai encore. Tu es Dieu et je te bénirai encore. À ce moment-là, écoutez bien ceci, à ce moment-là, ta vie devient une louange qui monte vers Dieu. Il n'y a plus juste besoin de paroles. C'est ta vie au complet qui devient une louange et une adoration qui monte vers Dieu. Et ça réjouit son nez, il se réjouit, il sent cette odeur qui monte vers lui. Lorsqu'un de ses fils, une de ses filles qui passe à travers une tempête, qui passe à travers un moment où ça fait mal à l'intérieur, à travers un moment où je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais qui choisit de louer quand même, dit « Seigneur, je te louerai, Seigneur, je te bénirai pour qui tu es ». Cette louange-là, cette vie, de cette vie-là, se dégage une louange qui monte vers Dieu et qui réjouit son cœur. Un parfum qui monte vers Dieu. Lorsqu'une église, chacun d'entre nous, les uns avec les autres, dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit, nous mettons à chanter des chants de tout notre cœur, à louer, à adorer le Seigneur, malgré nos circonstances, malgré les défis de nos vies, malgré nos tempêtes qui soufflent, il y a une louange puissante qui monte vers Dieu et qui réjouit profondément son cœur. C'est au-delà des chants qu'on chante sans y penser. C'est au-delà juste d'élever ma voix, puis de faire des deuxièmes voix, puis d'amener une belle harmonie. C'est au-delà même de talents extraordinaires qu'on peut avoir, dont on est tellement reconnaissant. C'est tellement au-delà de tout ça. C'est des vies de louange. C'est nos vies qui se dégagent vers Dieu. Seigneur, son cœur de père est tellement touché de voir, lorsque tu traverses une tempête, ton cœur commencer à le louer malgré tout, à l'adorer malgré tout, à faire monter une louange malgré tout vers lui. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, mes amis, en terminant ce matin? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Alléluia! On va se mettre à chanter, mes amis. On va se mettre à chanter et à l'adorer au-delà de nos voix. On va se mettre à l'adorer avec qui on est, avec nos vies. Est-ce que ce matin, il y a des frères et sœurs qui traversent des tempêtes? Est-ce que ce matin, il y a des frères et sœurs qui traversent des tempêtes? Vous êtes en train, en ce moment, de traverser une tempête. Et il y a des combats qui font rage. Il y a les vents qui soufflent. Peut-être que c'est une tempête face à la sainteté, face au péché qui te harcèle. C'est une tempête. Tu aimerais t'en sortir, c'est difficile. Mais peut-être que c'est une tempête relationnelle. Une tempête dans ta famille. Peut-être que c'est une tempête dans tes finances, à ton travail. C'est peut-être des tempêtes qui font rage autour de toi et qui t'amènent de la peur, de la crainte. Tu regardes les flots qui remplissent ta barque, puis tu te dis wow, wow! Ce matin, nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons le remettre à sa place sur son trône, sur le trône de ta vie. Remettre à sa place, alléluia, et le louer au-delà des circonstances de nos vies. Le louer pour qui il est. Laissez-moi vous dire une chose, alléluia, il va se réjouir de cette louange ce matin. Il se réjouit, son odorat est flatté, est tellement heureux de ce parfum qui monte et qui va monter. On va chanter ensemble. On va chanter ensemble avec Sébastien ce matin et on va le faire. Fais-le pour ta vie. Fais-le pas pour ton voisin, ta voisine. Fais-le pour ta vie, ta situation, là où t'en es. Confie-lui ta vie. Dépose-la lui tout à nouveau. Peut-être que tu te dis, oui, mais je l'ai déjà fait dimanche passé, puis j'ai déjà fait dimanche d'avant. Fais-le encore. Je ne sais pas combien de temps la tempête va durer. Je ne sais pas combien de temps va durer dans ta vie. Dieu le sait. Mais choisis de le louer malgré tout. Choisis de lui déposer tout à nouveau ta vie. Peut-être qu'on se retrouvera dimanche prochain, puis de nouveau, tu devras lui déposer ta vie parce que ta situation, il y aura encore des vents qui souffleront. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Mais tiens ta vie entre ses mains. La Bible nous dit, psaume 91, il enverra ses anges pour te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est capable de t'envoyer ses anges là où tu en es pour se soutenir. Et à chaque jour, tu vas te lever et tu vas te donner des forces renouvelées. Si tu t'en vas sur ce chemin-là, tu vas renouveler tes forces. Peut-être que tu te coucheras le soir et tu te diras, je ne sais pas comment je vais faire, je me sens si faible. Comment je vais traverser cette tempête? Mais tu vas te relever le lendemain matin et Dieu t'aura donné des forces renouvelées. Et tu vas pouvoir passer à travers
ta journée, dans les forces que le Seigneur te donnera. Et tu vas, jour après jour comme ça, tu vas traverser ta tempête et Dieu va t'amener à l'autre bord. Dieu va t'amener à accoster à l'autre bord parce que c'est cela qu'il a prévu pour ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on va ensemble élever la voix? Alléluia. Chante, chante ce matin, confie-lui ta vie. Alléluia.